de Pierre qui avait confessé sa foi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis voilà que cet homme dira dans un moment de faiblesse, parce qu'il ne se connaît pas, hein, je ne connais pas cet homme. Alors qu'il était sûr de lui, vous savez, les croyants qui sont sûrs d'eux-mêmes, ils me font peur. Je veux que vous soyez sûrs de qui ? De Jésus en vous, mais pas de vous-même, parce que la chair, elle est faible. Et la chair, depuis notre conversion, elle ne s'améliore pas. Si vous voulez connaître un peu les progrès depuis votre conversion, c'est d'avoir horreur de vous-même. Plus vous avez horreur de vous-même, plus alors vous vous quittez vous-même pour dire « Seigneur, il n'y a que toi, et je veux vivre de toi ». Voilà les vrais progrès. Mais quand je vois quelqu'un qui se gonfle au coin du chrétien, ça me fait peur. Que celui qui se croit de vous, hein, parce qu'il se croit de vous, il n'est pas même de vous, il se croit de vous, prenne garde et qu'il ne tombe. Eh bien, soyons assez imprégnés de la parole de Dieu pour ne mettre plus notre confiance dans le Seigneur Jésus, pourvu que j'achète la foi, disait l'apôtre Paul. Et le service que le Seigneur m'a confié, que je puisse l'accomplir avec joie. C'est une joie pour nous de continuer la course. Et puis, que nous soyons trouvés à sa venue en pouvant dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. La foi. Ces vérités essentielles du christianisme. Nous ne nous en sommes pas détournés. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez les gens qui sont ballottés ça et là par souvent de l'esprit. Et quand le Seigneur revient en gloire, alors il lit Satan, et qui est mis pour 1000 ans de côté dans le puits de l'abîme, et pendant 1000 ans, c'est le règne de Jésus. Car il faut qu'il règne. Celui qui a toute autorité, toute puissance dans les cieux et sur la terre, il faut qu'il règne. Or, jusqu'à aujourd'hui, Jésus n'a pas régné sur ce monde. Ceux qui ont régné sur la terre, ceux qui ont eu les grands royaumes, ils ont tous été comparés à quoi ? À des bêtes, hein, plus effrayantes, plus effrayantes. Croyables les unes que les autres. Il n'y a pas encore eu de règne humain, quel que soit le gouvernement que vous ayez, capitaliste ou communiste, il n'y a pas encore eu de règne humain ici-bas. Mais la prophétie de Daniel doit s'accomplir. Après la succession des animaux qui représentent Babylone, Nebuchadnezzar, qui représentent les Mèdes et les Perses, ou les Grecs, ou les Romains, ou la dernière bête plus effroyable que les premières, eh bien, Daniel a la vision d'un être semblable à un fils de l'homme qui s'approche de l'ancien des jours, verset 13 du chapitre 7 de Daniel. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme, il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne n'aura jamais de fin. Et c'est à ce règne que les croyants qui font partie du corps de Christ seront eux-mêmes associés. Si vous souffrez avec lui, vous régnerez aussi avec lui. Mais sur une terre qui a crucifié Jésus, nous ne pouvons pas régner. Vous le comprenez bien. Vous ne pouvez pas maintenant, dans le temps présent, avoir un trône là où Jésus a eu une croix. De sorte que nous sommes les disciples de la croix et que les souffrances, elles font partie du programme chrétien. Jésus n'a trompé personne. Il n'a pas dit, si vous me suivez, si vous m'acceptez, vous aurez une vie facile. Au contraire, il a dit, tu veux me suivre, renonce à toi, prends ta croix et suis-moi. Il est question d'une identification au Christ dans sa mort, pour que nous le soyons aussi dans sa résurrection. C'est pourquoi nous portons toujours dans le corps, parce que nous sommes encore dans un corps, la mort de Jésus, là où le péché voudrait se manifester, nous portons la mort de Jésus dans la foi, je suis mort, le péché est dans la chair, mais le péché n'a pas de pouvoir sur un mort. Alors tenez-vous vous-même pour mort. Considérez-vous, mais dans la foi, c'est pourquoi la foi, c'est pas quelque chose qu'on a un jour, mais c'est une foi quotidienne, une foi dynamique, une foi qui se renouvelle tous les jours. Tenez-vous chaque jour dans cette mort à vous-même, afin que le péché ne règne pas. Un mort, on peut le tenter, tout ce que vous voudrez, il ne bouge pas. Mais le péché est là, je sais que le péché est là, dans ma chair. Mais pour ne pas y répondre, j'ai à me tenir pour mort. Mais si je veux me regarder à ce que je peux penser, je sais très bien que ma chair ne s'est pas améliorée depuis ma conversion. Et qu'elle ne le peut pas. C'est pourquoi quand on vous demande de prendre toute espèce de décision sur ceci, sur cela, vous faites l'expérience de la faillite. Et puis, vous avez ensuite une mauvaise conscience. Mais vous avez été mal enseigné. Il y a deux natures en nous. Une nature, celle du vieil homme, mais que nous considérons, que nous gardons dans la mort. Et puis, il y a le nouvel homme, qui est la nature de qui? Jésus. Alors, lui ne peut pas pécher. La nouvelle nature ne pêche pas. C'est toujours l'ancienne. Alors, ne retournons pas aux habitudes de l'ancienne. Mais laissons vivre le nouvel homme, laissons-le dans sa plénitude en nous. Et alors, il est dit qu'il faut que Jésus règne. Il faut que le monde entier soit délivré de ce jour de la corruption auquel la création a été soumise. Et alors, c'est cette vision idyllique du règne où les blés croîtront. Jusqu'au sommet des montagnes, il y aura une prospérité merveilleuse et pendant 1000 ans, les hommes auront la possibilité de jouir de la paix. Mais sous le règne de Jésus et de ceux qui sont à lui et qui auront une part dans l'administration de son royaume. C'est pourquoi votre vie est incomparable. Votre vie terrestre, depuis votre conversion, votre vie appartient au Seigneur. Quelle est votre raison de vivre? Est-ce que vous la cherchez encore? Votre raison de vivre, c'est qui? Jésus-Christ. Vous avez été créé dans le Christ Jésus pour quelle raison? Pour les bonnes œuvres. Ne cherchez pas à faire des bonnes œuvres. Ce n'est pas à vous de chercher, mais vous avez à comprendre que vous êtes créé pour les bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées pour que vous les... Là où vous êtes, il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un temps pour les bonnes œuvres, il n'y a pas un nom pour les bonnes œuvres. Maintenant, on met des noms à toutes les bonnes œuvres. Mais nous sommes créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et il nous a façonnés, nous forme pour cela, pour que nous puissions répondre à une vocation précise. Il ne nous demande pas de faire le travail d'un autre. Ou d'imiter un autre, parce que nous avons lu une biographie, alors nous partons pour la gloire, nous voulons faire la même chose. Ce n'est pas cela. Demandons-lui, Seigneur, quelle est l'œuvre à laquelle tu me destines? Que veux-tu de moi? Et vous savez, il y a des changements qui s'opèrent. Moi aussi, j'avais mes petits plans depuis ma conversion, quand j'avais 14 ans. Et je voulais faire ceci, je voulais faire cela, pour servir le Seigneur. Et je lui demandais de bénir mes plans, et puis je voulais être médecin, oui, mais médecin missionnaire, pour aller sur un terrain neuf, parce que je trouvais que dans nos pays, toutes ces divisions entre chrétiens, ben, c'était semé au milieu des épines. Hein. Défricher pour vous un terrain neuf. Alors je me disais, en me penchant sur les corps, tu pourras atteindre les âmes. Ça, c'était le plan chéri de mon cœur. Et au lieu d'être médecin, il m'envoyait à l'hôpital. Et il m'a formé pendant 4 ans par la maladie. C'est un autre plan de Dieu. Hein. Alors il faut accepter et savoir se soumettre. Et quand l'heure est venue, alors, il nous appelle. Quand on me demandait, pourquoi servez-vous le Seigneur? Parce qu'il m'a appelé. C'est pas de problème. J'ai pas pu faire autrement. Il m'a appelé à son heure. Et je sais l'endroit où ça s'est passé. Et pourquoi j'ai une dette encore vis-à-vis d'Italie? Parce que c'était dans ma convalescence, alors que j'ai été condamné à 18 ans, j'aurais dû le dire. Et je suis encore là. Devinez mon âge, ça ne m'intéresse pas que vous sachiez. J'aime mieux me souvenir du petit gars et qui a dit dans un camp à deux de ses camarades qui avaient demandé mon âge parce que j'avais parlé de la vieille Sarah qui était morte à 127 ans. Puis 3 petits sont venus vers moi, je racontais ça à mes amis tout à l'heure, et ils ont demandé, mais vous ne trouvez pas que c'est vieux 127 ans? J'ai dit, vous trouvez? Oh oui. Mais toi, quel âge est-ce que tu as? C'est les petits mondes. Alors j'ai dit, bien devinez. Alors un a dit ceci, l'autre a dit cela, c'était à côté. Puis le plus petit, qui avait peut-être 4 ans, il me regarde fixement, qui dit aux autres, ton âge, c'est la vie éternelle. Non, vous savez, hein, la vérité qui sort de la bouche des enfants, ça m'a fait un bien immense. Hein. C'était une injection de vitamine. Donc. Vraiment, n'est-ce pas? Ce petit, j'étais fatigué ce soir-là, il y avait encore une réunion à faire pour les aînés. Eh bien, son âge, c'est la vie éternelle. Voilà, ce que le Seigneur veut, il le fait. Et puis après, bien, il nous conduit. Il nous dit, ben oui, j'ai commencé seul, j'étais il y a 51 ans maintenant, évangélisé un département de France, dans le Douai, j'y étais cette année. Et des gens venaient me dire, vous vous souvenez, il y a 51 ans, vous êtes venu me faire une visite. J'étais jeune marié. Mon mari se promenait dans les rues avec des pancartes communistes. Et il y avait une année et demie qu'on était mariés. Puis nos frères me disaient, parce qu'il était écarté du chemin, il avait confessé le Seigneur, puis après il était parti dans cette idéologie marxiste. Et puis on lui disait, tu devrais te séparer de lui. Il paraîtrait que... Tout jeune que j'étais, j'avais dit à cette femme, absolument magnifique. On s'est passé 4 jours à la fin du mois d'avril. Eh bien, vous voyez que quand on apporte la parole, eh bien, elle demeure. Et c'est là la joie de mes cheveux blancs. C'est de voir des gens vous dire, il y a 50 ans, vous nous avez dit cela, j'avais 18 ans, j'étais dans un camp, et puis voilà, vous avez dit, les ennemis de l'Église ne sont pas toujours à l'intérieur de l'Église, ne sont pas toujours à l'extérieur de l'Église, mais ils sont à l'intérieur. Elle me dit, vous aviez parlé sur Philippiens chapitre 3, hein. Il y en a parmi vous des gens qui marchent et qui sont les ennemis de la croix de Christ. Bien oui, elle s'en souvient, dit, j'ai donné mon cœur au Seigneur ce jour-là. Moi, je ne savais pas. Mais ce qui compte, c'est de prêcher la parole. Et de croire que quand vous avez jeté la graine de la parole dans un cœur, c'est le Seigneur qui l'a fait germer et qui donne l'accroissement. Ce n'est pas intéressant que moi je sache. Peut-être un jour je le saurai. Mais un jour, le Seigneur manifestera toutes choses et il rendra à chacun selon son œuvre. Il y en a qui ont semé, qui n'ont rien vu. Il y en a qui ont récolté, qui croient qu'ils ont tout vu. Et puis, quand ils seront là-haut, le Seigneur leur dira, mais si c'est pas toi, toi t'as jeté la dernière goutte. Tu es entré dans un champ où tu n'avais pas travaillé, mais d'autres avaient travaillé avant toi. De sorte que, voyez-vous, au service du Seigneur, on doit être ni écrasé, ni aplati, ni gonflé. Enfin, on est soi-même, on est au service du Seigneur, puis toute gloire, on la donne au Seigneur. C'est lui qui opère toutes choses. Et figurez-vous qu'après 1000 ans de paix, les gens se révolteront encore quand Satan sera délié, ils se révolteront contre le gouvernement du Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. Vous voyez quelle descente des montagnes de Dieu où il s'était élevé jusqu'à l'étang de feu et de souffle. Voilà pour Satan. Mais il est un ennemi vaincu. Vous ne voyez pas encore aujourd'hui que toutes choses soient soumises au Christ qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Hébreux chapitre 2 nous le dit, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient assujetties. Mais la victoire, elle est acquise. Tout a été accompli. Mais qu'est-ce que nous voyons? Ben, nous voyons Jésus. Alors regardez à Jésus. Regardez à Jésus et vous aurez la victoire sur Satan. Vous ne traiterez plus Satan comme un autre Dieu, presque aussi puissant. Alors on tombe dans le dualisme des perses. Non, nous, il n'y a pas un Dieu du bien puis un Dieu du mal. Il y a un Dieu unique. Béni soit-il. Il se manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous adorons, nous n'expliquons pas. Et nous ne séparons jamais le Père du Fils et du Saint-Esprit. Nous les distinguons, mais nous ne les séparons pas. Nous n'adorons pas trois dieux, nous adorons un seul Dieu, béni éternellement. Mais Satan est déjà vaincu. Alors, je vous avais demandé, je ne sais pas si quelques-uns ont pu le faire, de lire comme fond de ce que nous avions vu de la puissance du Seigneur sur Satan, le chapitre 5 de l'évangile de Marc, où nous voyons Jésus débarquant après avoir délivré les disciples de ce naufrage. Il arrive sur ce terrain des Gadaréniens et il y trouve l'homme, sa créature, dans cet état épouvantable de possession. Je ne vais pas y revenir, mais vous pouvez reméditer ce chapitre et vous voyez comment le Seigneur a pu vaincre la puissance de l'ennemi qui s'était incarné dans le démoniaque qui portait le nom de Légion, qui portait le nom de Légion, et qui était devenu une frayeur pour tous ses concitoyens, et qui hurlait sous le ciel, qui se meurtrissait avec des pierres, vraiment l'homme laissé à lui-même, sans Dieu, et qui ne peut pas s'en sortir, et le monde ne peut rien faire pour le lier. Alors, on voit là la puissance du Seigneur sur Satan. Et nous lisons un peu plus loin, et vous relirez cela. Jésus ne s'est pas imposé, parce que si on ne veut pas de lui, il ne s'impose pas. Jésus n'est pas un violeur d'âme. Nous le soulignons souvent. Nous voudrions, les prédicateurs, avoir un passe-partout. Ouvrir les cœurs, pour que tout de suite vous laissiez entrer Jésus. Mais la clé, c'est pas moi qui l'ai, c'est vous qui l'avez. Et la porte, elle doit s'ouvrir de l'intérieur. Jésus frappe, comme il l'est dit dans la Odyssée, à la porte de votre cœur. Si quelqu'un entend sa voix et qu'il ouvre la porte, Jésus dit, j'entrerai chez lui et lui. Je suis prêt avec lui et bien avec moi. Il y aura une communion réelle, un tête-à-tête avec le Seigneur. Ce n'est pas avec moi que je vais avoir le tête-à-tête, c'est avec le Seigneur. Et alors votre conversion, elle tiendra, parce que la porte sera fermée de l'intérieur et vous aurez une communion intime. Parce que sans ça, si j'ouvre avec mon passe-partout, la porte reste ouverte, on ne peut plus la fermer, on a gâté la serrure, alors le Seigneur est entré, oui, puis alors le monde y entre, ça sort, ça rentre, et au fond, notre vie n'a pas d'intimité, il n'y a pas d'intimité avec le Seigneur. Un moment c'est le monde, un moment c'est le Seigneur, un moment c'est le monde, on a des hauts et des bas, on compte sur des camps pour se regonfler, hein, ou pour recharger la batterie, une chose abominable, comme si on rechargeait la batterie. Alors, charger une batterie, c'est pas une batterie, c'est une personne. C'est Jésus en nous. C'est pas recharger une batterie. Alors, enlever ces expressions. On nous a enseigné tant de choses et qui ne cadrent pas avec l'Écriture. On a un passeport qu'on n'a pas signé, il est signé par le sang de Jésus. Ce n'est pas un passeport pour le ciel, le salut. Ce n'est pas un billet première classe ou wagon-lit pour l'éternité, le salut. Le salut, c'est quelqu'un. Ce n'est pas même une police d'assurance contre l'enfer, hein. Une police d'assurance contre le feu du ciel, le feu de l'enfer. Mais non, hein. Alors, j'ai ma police. Je ne serai pas brûlé. Ce n'est pas mon Dieu, le roi des rôtisseurs. Non, que le Seigneur me garde de toutes ces expressions qui repoussent le monde. Parce que vous savez, le monde, il pense aussi. Et il ne faut pas lui faire croire n'importe quoi. Mais quand vous en restez à la parole, là, c'est odeur de vie, c'est odeur de mort. Il y a des choses qui changent. Il y a vraiment des choses qui changent. Il y a un endurcissement qui peut se faire, comme on l'a vu pour le Pharaon. Mais ceux qui se donnent au Seigneur, alors, ce sont ceux que le Père a vraiment attirés à Jésus. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ce n'est pas nos méthodes, ce n'est pas tout ce que l'on peut faire comme attraction qui va amener les âmes au Seigneur. C'est l'attrait du Père. Nul ne vient à moi, disait Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et une fois que l'âme est arrivé vers le Seigneur la sauve, et il la redonne à qui? Au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, c'est cette communion bénie. Le Père attire à Jésus, Jésus est le seul nom qui a été donné aux hommes pour nous sauver, il nous sauve, et nous avons la victoire par le sang de l'agneau sur cette puissance satanique, diabolique de Satan. Et il est vaincu, et nous le proclamons avec force. Jésus est vainqueur. Et un jour, il demandera à son Père, comme au psaume 2, le décret de Dieu, il est dans le psaume 2, « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. » Mais il ne l'a pas encore demandé. Hein. Mais il y a une heure où il va demander les nations pour héritage. Et alors tout se passera très rapidement. Dans l'espace d'une génération, tout peut se passer. Alors, mes amis, veillons. Alors, Satan est vaincu, mais nous avons les conséquences encore du péché. Quand Jésus sort, quitte le territoire de Gadara, et qu'il arrive de l'autre côté, en ayant laissé le démoniaque guéri pour témoigner, il n'a pas voulu le prendre avec lui dans sa barque, c'est aussi un enseignement, hein. Va, dis au tien ce que j'ai fait pour toi. Verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et il lui adressa une instante prière. Vous voyez, dans un certain coin de pays, on le repousse. Ah oui, on nous repousse. Qu'est-ce que nous avons à faire? À nous décourager? Ou avoir des rancunes contre ceux qui nous ont repoussés? On va plus loin. Vous comprenez? Il y a les solutions dans le Seigneur. On ne veut pas de nous. Nous allons plus loin. Et puis, voilà, on trouve des gens qui ont des besoins. Et lui adressa cette prière, ma fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains et qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Alors, ça, c'est ce soir que nous reparlerons de cela, hein. Mais nous allons plus loin. Et pendant qu'il allait sur ce chemin-là, lui qui a été rejeté du pays de Gadara, eh bien, il y avait une grande foule qui le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Vous voyez, quand c'est Jésus et la puissance de Jésus qui opère, ça se fait instantanément. Au même instant, la perte de sang s'arrêta.
Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle ne s'est pas imaginée. On ne lui a pas dit, dans 3 mois, vous irez mieux. Hein? Ou continuez de prendre vos béquilles, parce que vous en avez besoin. Quand Pierre, par la puissance du Seigneur, a guéri le boiteux de la belle porte, au chapitre 3 des Actes, hein, il a sauté sur ses pieds, et il est entré avec Pierre et Jean dans le temple. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. C'est cela, vraiment, une intervention de Dieu. Et ça, nous y croyons. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Alors, ses disciples veulent tout de suite lui donner une explication. Mais Seigneur, toute la foule te prête et tu dis qui m'a touché. Ah, vous savez, le Seigneur ne se trompe pas. Quand il y a une âme qui a le contact de la foi avec lui, c'est fait. Comprenez-vous? C'est fait. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, on sait ce qui s'est passé, hein, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton fléau. » Que c'est beau. Eh bien voilà, il y a la maladie. Jésus, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et pendant qu'il était sur la terre, non seulement il était capable de vaincre les puissances démoniaques, mais il était capable de guérir les maladies. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne meurt pas après. Hein. Un jour, tôt ou tard, comme nous allons le voir ce soir, il faut bien mourir. De sorte que même Lazare, ressuscité, mourra un jour. Hein. De sorte qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Nos temps sont dans sa main, mais je crois que nous aurions besoin de retrouver cette foi au Seigneur Jésus quand nous sommes atteints par la maladie, car le Seigneur Jésus n'a pas changé. Mais ce que nous ne devons pas faire, c'est d'essayer de faire des miracles. C'est de s'essayer sur les têtes des gens. J'ai demandé à quelqu'un qui imposait les mains à tort et à travers, « Mais est-ce que Dieu t'a donné le don de guérison ?» Il me dit, « Mais il faut bien que je m'essaye. » Alors, écoutez, vous trouverez toujours sous vos mains une personne plus ou moins exaltée qui dira qu'elle a senti une chaleur, etc., et qu'elle avait une grave maladie, parce que tout le monde a son cancer. Hein. J'ai vu dans une rencontre quelqu'un qui manipulait les foules, qui a demandé que tous ceux qui ont mal au dos se lèvent. Ils sont presque tous levés, tout le monde a mal au dos. Vous comprenez? Tout le monde a mal au dos. Il dit, quand vous avez une douleur de ce côté-là, vous pensez à un cancer au sein, ou bien là, c'est le cancer sur les reins, ou je ne sais trop quoi. Hein. Tout le monde a son petit cancer. Hein. Et alors, c'est facile de vous dire, dans une grande salle surchauffée, que vous allez sentir une chaleur. Alors, vous allez la sentir, cette chaleur. Hein. Mais après, ben, vous voyez les gens en chaise roulante, on leur dit de continuer avec la chaise roulante et les béquilles, mais que dans 3 semaines, ça ira mieux. Alors, c'est de la manipulation. Et nous déshonorons le Seigneur et la puissance de guérison à laquelle nous croyons. Et nous croyons à la puissance de Dieu aussi pour guérir, pour tout le temps de l'Église. Je ne crois pas à cette théorie que simplement les dons cesseront, etc. Puis alors, il y en a certains qui ont cessé. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est des faux dons, des choses qui sont simplement des ersatz, comme on dit en Europe, n'est-ce pas, qui ne correspondent pas à la vérité. Les dons du Saint-Esprit, nous y croyons, et ils sont pour tout le temps de l'Église. Mais attention, hein, à ce charabia que l'on entend n'importe comment et n'importe où, il peut y avoir un don de langue, je le crois, encore maintenant, si Dieu le veut, mais alors, c'est pour votre édification personnelle, et vous devez vous en servir selon les Écritures et non pas dans une église, nécessairement. Ce que Paul nous dit, comprenez-vous, c'est pour votre édification personnelle, mais le don de prophétie, une parole qui vient directement du Seigneur et qui correspond à la parole écrite, elle peut être donnée et elle a une force. Elle a une puissance que n'ont pas n'importe quelle parole que l'on lit d'une façon monotone. C'est cela qui doit nous caractériser, être disponible et dire au Seigneur, ben Seigneur, tu vois, moi je ne suis pas capable, je ne suis capable de rien, mais si tu veux m'employer pour te servir, donne-moi ce qui est nécessaire pour que je puisse te glorifier. Et alors le don, il n'est pas moi, mais c'est le donateur qui est en moi. C'est le donateur qui est en vous et qui peut vous pousser à un moment ou à un autre à une certaine action dont vous ne ferez pas une propagande. On ne fait jamais une propagande de guérison divine. Ça c'est faux. Mais nous croyons à la guérison divine. Il ne faut pas jeter, comme on le dit, hein, le bébé avec l'eau du bain. Il nous faut être de ceux qui croient que le Seigneur a toute puissance et que même quand on aurait été condamné, on peut encore être là. Oui, j'étais condamné. J'étais même dans la salle de bain où l'on nous mettait avant de nous mettre à la morgue. Et j'en suis sorti. Il n'y avait pas encore dans ces hôpitaux-là, il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps de cela, toutes les commodités d'aujourd'hui, hein, on nous sortait de la grande salle pour qu'on ne nous voit pas mourir. Alors on nous mettait à la salle de bain pour la nuit, et puis le lendemain, eh bien, on passait plus loin à la morgue. Eh bien, tout cela, je l'ai vécu et j'en bénis le Seigneur. Pourquoi m'a-t-il donné après un ministère parmi les malades? C'est parce qu'il voulait, il m'avait préparé pour cela. Et alors, quand je me suis trouvé dans cette ville de Lézin où il y avait 3000 malades tuberculeux et que j'étais célibataire, je ne pensais pas du tout me marier parce que ce n'était pas dans mes plans du tout, parce que j'avais été malade moi-même et mon ministère, j'avais peur comme Saint Paul, j'avais peur que ce soit un frein dans mon ministère et je pensais que il avait raison quand il dit que celui qui ne se marie pas, il fait mieux, hein, je voulais faire mieux. Alors, mais oui, mais on a nos idées. Hein. Et heureusement que Dieu est au-dessus de toutes nos idées. Et puis voilà, après un mois de travail dans ce lézin, en sortant à midi d'un sanatorium, un grand sana de lézin, maintenant c'est une station de sport parce qu'on ne soigne plus la tuberculose comme autrefois, eh bien, j'ai entendu dans mon cœur, fonde un foyer pour tuberculeux à lézin. Mais aussi net que ça, quand le Seigneur parle, c'est toujours très court, hein, mais on sait que c'est lui. Et je devais dîner chez un grand commerçant qui était un croyant, mais que je ne connaissais guère depuis un mois seulement. Un grand commerçant de Lézin, il avait pharmacie, épicerie en gros, tout ce que vous voulez. Et puis il m'avait invité à dîner. Alors je descends chez lui. Puis quand j'arrive, il me dit, qu'est-ce que vous avez? Votre visage rayonne. Je ne savais pas. Je lui dis, je l'ai rencontré, je n'ai pas dit qui. Et lui me dit, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous voyez, quand on est sur la même longueur d'onde. Il m'a dit, fonde un foyer pour tuberculeux à Lézin. Il éclate en larmes. Cet homme me prend dans ses bras, me tire sur son cœur et me dit, c'est 20 années d'exaucement de prière. Moi, je frémis. Il dit, comment? Ben, il me dit, moi, j'ai pas d'enfant, mais moi, j'ai gagné ma vie avec la maladie. Hein. J'ai fait de l'argent avec la maladie, mais j'ai toujours prié pour qu'un jour, Dieu envoie un homme préparé pour travailler parmi les tuberculeux à Lézin. Votre foyer, c'est moi qui en prends la charge. Ben vous savez, hein, si une pierre vous tombait sur la tête, ou une étoile, je ne sais pas, ça ne serait pas moins que moi qui n'avais rien, j'avais absolument rien pour fonder un foyer. Mais lui, il était très réaliste. Alors il me dit, mais pour fonder un foyer, il faut te marier. Parce qu'on n'a pas les sœurs de Jeanne d'Arc ou de je ne sais quoi, nous les évangéliques, hein, pour faire notre ménage. Et on ne peut pas prendre une servante, parce qu'on raconterait des histoires. Alors, et il me dit, mais il faut te marier. Mais il me dit, il faut une femme un peu plus âgée que toi, parce que toi, tu as passé par la souffrance, c'est trop mûr. Et puis, bon, eh bien, oui. Voilà, j'ai épousé une veuve. Moi, j'avais écrit mon premier message quand j'étais malade à 18 ans. J'ai écrit ce message de Dieu aux veuves. Je ne savais pas que le Seigneur me réservait une veuve qui avait deux enfants. Et c'était justement encore plus une raison de me marier parce que je devenais le père de deux enfants. Mais c'est comme ça. Ça s'est passé au mois de janvier, le 28 janvier 1939. Et au mois de juin, on était mariés. Au mois d'octobre, on avait notre foyer pour tuberculeux à Vincennes. Et lui, on prenait la charge. Alors, comme c'est Dieu qui agit, je serais un menteur si je ne restais pas dans cette dépendance. Il y a de cela, eh bien, oui, il y a 53 ans qu'il m'a appelé, et j'ai fait cette expérience. D'autres peuvent faire d'autres expériences. Je ne vais pas vous raconter mes expériences, mais je peux vous dire, c'est vrai qu'il répond. Mais il éprouve aussi. Parce qu'il ne veut pas que vous puissiez devenir charnel et vous appuyer sur la chair. 4 mois après notre installation à Lézin, alors que j'ai eu tous les chrétiens corrompus, il me donnait pour 3 mois de vie. Un type qui a été si longtemps malade, il va être contaminé par la tuberculose, il en a pour 3 mois, puis c'est un criminel, il amène 2 petites filles qui ne sont pas de son sang, il les amène là-haut, il va contaminer ses petites, parce que forcément... Vous savez, les chrétiens, hein, faut les aimer. Et puis dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que c'était bien là que Dieu me voulait. Mais 4 mois après, cet ami m'a téléphoné, on aimerait que tu viennes souper avec ta femme et les enfants. On est allé. Ma femme était enceinte de mon Jean-Bernard. Et puis, on a chanté. Et lui, il jouait très bien le violon. Et il avait 65 ans. Il me dit, je voudrais qu'on chante « Ô Dieu, mes temps sont en ta main ». C'est le psaume 131. Alors on a chanté « Ô Dieu, nos temps sont en ta main ». C'est un destin digne d'envier sans souci du lendemain. Et figurez-vous que, à 5h du matin, le lendemain, c'est un dimanche, sa femme me téléphone, « Gaston, venez vite, Paul est mort ». Oui, il était mort. Mais ça m'était allé dans la nuit, dans son sommeil. Et alors, évidemment, il était associé à 2 de ses frères, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas fait de testament encore, alors l'héritage ensuite, ça revenait aux héritiers de sang, et la femme n'avait que le quart en héritage. Alors qu'est-ce que je devais faire, moi? Dire tout de suite à cette chère veuve, je vous délie les promesses de votre mari. Paul est mort, mais le Dieu de Paul n'est pas mort. Moïse, mon serviteur, est mort, mais je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est la parole qu'il donne à Josué. Et alors, et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, j'ai dû faire l'enterrement. Il y avait 1000 personnes à Lézin qui étaient là en plein air pour cet enterrement. Et c'est ça qui m'a fait connaître du public de Lézin. Il y avait les catholiques, il y avait tout était là. Parce que c'était les grands commerçants de Lézin. Et j'ai eu l'occasion d'annoncer l'évangile en plein air, et ceux qui étaient dans les salons sur leur chaise longue pouvaient entendre la prédication. Et c'est comme cela que pendant 7 ans, j'ai eu ce foyer pour tuberculeux à Lézin et tout ce rayonnement parmi les malades. Et voilà ce que fait le Seigneur. Après, je suis descendu parce que le Seigneur, ça changeait en station de ski, et le Seigneur m'avait montré que je ne devais pas envoyer mes enfants séparés de la maison, que c'était moi qui devais, puisque j'avais 6 enfants. Je suis allé dans une ville où il y avait des écoles, elles avaient fini les écoles, elles ne pouvaient pas aller plus loin, pour que mes enfants, j'en ai encore la surveillance, enfin la surveillance, disons, la garde, l'amour, l'affection, je les avais aimés, surtout qu'elles n'étaient pas de mon sang, et puis j'en avais 2 maintenant qui étaient nées. Alors, je me sentais cette responsabilité avec mon frère. Alors nous sommes allés habiter le canton où je suis né, Neuchâtel, où devait m'attendre 2 ans plus tard une terrible épreuve. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Et je vous dis que le Seigneur a toutes choses, tous ses plans sont dans sa main. Et alors la maladie, eh bien, je crois que le Seigneur est capable de nous délivrer de la maladie. J'ai vu des guérisons, mais j'en ai vu aussi qui sont partis vers le Seigneur. Et vous savez, il ne faut pas préparer les âmes au dernier moment. Pendant toute la guerre, on avait les hospitalisés français. Et c'est pour cela que j'ai écrit cette brochure qui en est à sa 4e édition, Révolté, résigné, vainqueur. Dans la maladie, vous trouvez 3 aspects. Hein. Le révolté, que de fois je suis entré dans une chambre. Il était révolté, blasphémé. Et contre qui es-tu révolté? Il ne croit pas en Dieu, ni en Dieu, ni en diable. Non, plein des révoltés. Au fond, c'est quand même contre Dieu. Et alors, si tu pouvais le lui dire. Puis il y a l'autre état, le résigné. On ne peut pas faire autrement. Ça arrive à tout le monde, alors nous, on est là. Mais c'est, on n'est pas heureux dans la résignation. Et quand on peut dire, bien Seigneur, ce que toi tu veux. Quand on peut les amener au Seigneur et qu'ils aient l'acceptation, voyez, eh bien, j'ai vu bien des guérisons. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je crois à la guérison divine. Je crois que Dieu peut prolonger les jours. Je crois que Dieu peut nous donner encore un temps. Mais pas un temps pour qu'on court dans le monde. Il nous donne pas des jambes pour qu'on aille encore se jeter dans la souillure. C'est pourquoi il faut beaucoup de discernement dans la question de la guérison. Mais nous avons le Seigneur qui est vainqueur de la maladie. Et là, dans ce petit passage que vous allez relire pour vous-même, vous voyez cette femme qui a entendu parler de Jésus. Et c'est cela, il faut qu'on ait présenté la personne de Jésus et leur montrer que Jésus peut tout, mais qu'il faut d'abord se soumettre à sa volonté, qu'aller auprès de lui, bien, c'est pas une catastrophe. J'ai vu des jeunes filles fiancées qui sont montées là, inconverties, qui parlaient de leur mariage, et puis qui tout à coup, ça allait plus mal, elles devaient partir. Et quand elles ont pu accepter le Seigneur, c'était un envol vers le ciel. Les plus beaux lits de mort, c'est les lits de jeunes qui meurent dans le Seigneur. Parce que des vieillards, hein, chrétiens pendant des années, il y a des lits de mort épouvantables. Parce qu'on ne sait pas juger soi-même quotidiennement. Alors tout à coup, on réalise qu'on va paraître devant le Seigneur. On a menti, on a été injuste, on ne s'en est pas jugé. On est plein de péchés qu'on a laissé traîner, qui ont enlevé la communion. Puis tout d'un coup, on sait très bien, parce qu'on connaît la Bible, on connaît la doctrine, que l'on va paraître devant Dieu dans une lumière fulgurante. Alors on s'accroche, puis on a peur. On a peur de la rencontre. C'est pas le troisième bonheur, hein, sans l'aller vers le Seigneur. Parce qu'on, alors, on est dans le sac parce qu'on ne s'est pas jugé de tous ces petits voiles. Et tous ces petits voiles ajoutés les uns aux autres, ça finit par être un sac. Et on est dans le sac. Et il faut vraiment toute la grâce de Dieu, puis une très grande confession pour pouvoir partir. Et puis voilà qu'on se dit, j'ai perdu mon temps, si je pouvais recommencer. Mais non, c'est pas de l'humilité, si je pouvais recommencer. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas fait la volonté de Dieu, quotidiennement. Or, nous étions appelés à faire la volonté de Dieu quotidiennement. Vous voyez cette femme, vous allez vous-même vous imprégner de l'Écriture. Si je pouvais seulement toucher le corps de Dieu. Elle y va par derrière. Mais j'aime tellement cette expression. Elle a dû faire des coudes, hein, jouer des coudes, mais elle y est allée, elle veut la chose, et elle croit que c'est possible, parce que si elle ne le croyait pas, elle dirait que c'est inutile. Mais beaucoup de parmi nous, on pense que c'est inutile d'aller vers le Seigneur. Pourquoi ne pas aller d'abord au Seigneur? Elle lui dit, eh bien, ce que toi tu veux, tu le peux. Comme le lépreux du chapitre 8 qui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux. Et qu'est-ce que Jésus répond? Je le veux, sois net, et il est guéri. Mais il lui dit tout de suite, hein, ne va pas le crier sur les toits, va, montre-toi au sacrificateur, pour que ça soit un témoignage. C'est pas une propagande. On ne fait pas de propagande. On croit que c'est possible, que Dieu peut, et on voit encore de grandes choses, et il nous donne encore un temps, une survie. Et vous savez, ce que je voudrais vous laisser ici, parce que moi j'ai été très troublé, justement, dans ma maladie, j'ai été mis en contact avec des personnes qui me disaient, c'est pas possible que tu sois un vrai enfant de Dieu. J'étais jeune, j'avais 15 ans quand j'étais malade. Alors, moi je m'étais converti à 13 ans et demi, c'est pas possible que tu sois un vrai enfant de Dieu parce que Jésus, il a porté nos maladies sur la croix. Hein. Il a pas seulement porté nos péchés, mais nos maladies. Et j'étais troublé. Vous comprenez, on est jeune, j'étais troublé. Alors, on se livre à l'introspection, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois malade à 15 ans, etc., et condamné, et on est troublé. Mais quand la parole du Seigneur nous est révélée, Ésaïe 53 nous montre qu'en effet, il s'est chargé de nos douleurs, il a porté nos langueurs, il était l'homme de douleur, il est allé de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux que le diable avait asservi à sa puissance. C'est vrai tout cela. Mais regardez le chapitre 8 de Matthieu, verset 14, après les guérisons. Jésus se rendit ensuite dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. C'est dans sa vie, c'est pas dans sa mort. Dans sa mort, il a expié nos péchés. Mais dans sa vie, il est entré en sympathie avec tous ceux qui étaient malades et infirmes. Et il a opéré des guérisons. Il a agi en puissance. Mais c'était dans sa vie. C'est dans sa vie que cette portion d'Ésaïe a été accomplie. Dans sa mort, alors, il a pris nos péchés. Alors, c'est tout autre chose. Et nous croyons que le Seigneur qui intercède pour nous peut encore nous bénir et nous n'avons pas à juger quand quelqu'un est malade ou infirme comme les disciples faisaient dans Jean 9 en disant au sujet de l'aveugle-né, qui a péché, celui-ci ou ses parents, voyez quelle stupidité, comme s'il avait pu pécher avant de naître, hein, celui-ci ou ses parents, celui-ci. Pour qu'il soit né aveugle. Et que dit Jésus? Ni celui-ci, ni ses parents, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc il y a des épreuves que nous devons accepter en nous disant, bien Seigneur, glorifie-toi dans cette épreuve. Et voyez-vous, quand on peut être dans cette disponibilité, le Seigneur fait de grandes choses pour nous. Il ne nous laisse pas. La femme l'a touchée, elle a connu en son cœur, corps, qu'elle était guérie. Mais alors Jésus veut qu'elle le confesse. Eh bien, si vous l'avez touchée du contact de la foi, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de le confesser aussi spirituellement que c'est Jésus qui vous a sauvé. Et dites de quoi il vous a guéri, de quoi il vous a sauvé. Et souvenez-vous que quand on vous dit que si vous êtes malade, c'est que vous avez péché, pas nécessairement, c'est possible. Hein? C'est possible. Alors il faut savoir s'examiner, comme il l'est dit dans Jacques au chapitre 5. Et ça, c'est une pratique aussi que l'on a laissée de côté. Il y a bientôt plus que l'Église romaine qui fait cela, mais qui a transgressé, au fond, cette parole. Parce qu'on fait l'extrême onction qui devrait être, au fond, le sacrement guérison, soi-disant. Hein. Et puis on fait le sacrement des mourants. Tout a été déformé. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu des déformations qu'il faut tout rejeter en bloc. Il nous faut retrouver les vérités fondamentales et non pas courir à droite et à gauche vers ceux qui disent qu'ils ont le don de guérison et ceci et cela, et puis après vous êtes dépité parce que vous n'êtes pas guéri, et puis on vous dit que vous n'avez pas eu la foi, hein, ou bien on vous dit de faire un faux témoignage. Dites que vous êtes guéri, allez sur l'estrade, dites que vous êtes guéri, et le Seigneur sera obligé de vous guérir. Mais c'est un faux témoignage, ça. Comprenez-vous? Mais j'en ai plusieurs qui m'ont dit qu'on leur avait fait faire ça. Ils témoignent qu'ils sont guéris. Puis ils ont encore tous des symptômes. Alors c'est un faux témoignage. Il y a des brochures, les 7 pas vers la guérison divine de Osborne, pour ne pas le nommer. Eh bien, ça vous induit en erreur. N'est-ce pas? Vous passez par ceci, par ça, puis vous dites ceci et cela, et puis vous serez guéri. Dieu est obligé de vous guérir. Ça sera peut-être à Noël ou à la Trinité. C'est pas les guérisons divines, cela. Et moi, je ne crois pas que Pierre est allé pour ressusciter Dorcas. Il a été appelé pour aller sympathiser chez ses sœurs qui étaient navrées du départ de Dorcas. Puis il s'est mis en prière, il a fait sortir tout le monde. Il a imité qui? Jésus. Puis pendant qu'il priait, tout à coup, il a été saisi. Et puis ce qui s'est passé pour la fille de Jairus, s'est passé là, pour Dorcas. Mais on n'en a pas fait des plats, et Pierre n'a pas dit, maintenant moi je ressuscite les morts. Comprenez-vous? Ça s'est fait, parce qu'on est saisi là. J'ai vu des cas personnellement aussi, où le Seigneur est intervenu, mais parce qu'il nous saisit. Mais on ne va pas dire, ben maintenant, moi j'ai un ministère de guérison, etc., je suis un spécialiste de ceci et de cela. Nous avons à être dans la main du Seigneur. Vous êtes les membres du corps de Christ. Laissez cette vie passer en vous et il vous donnera ce qui peut vous qualifier pour les tâches qu'il peut mettre devant vous. Et je crois aussi à la fin du chapitre 16 de Marc, n'est-ce pas, que ça, personne n'a mis de poison, hein, je peux le voir. Mais je ne m'en vais pas vous dire, non, vous savez, moi, parce que je suis un enfant de Dieu au service du Seigneur, vous pouvez me mettre le plus fort des poisons, je peux le boire, hein, si je le bois devant vous. Ce serait tenté, Dieu. Mais que des missionnaires, qu'on a connus, et ça s'est passé en Afrique il n'y a pas si longtemps, des sorciers, le roi païen les avait arrêtés, le missionnaire européen, et puis on leur a donné une boisson qui foudroyait les gens, préparée par le sorcier, et le roi a dit, eh bien, si votre Dieu est puissant, eh bien, il le montrera. Si vous pouvez boire ce poison et que vous résistiez, alors on vous laisse annoncer l'évangile. Sinon, eh bien, nous restons dans notre paganisme. Et le sorcier en avait mis une dose épouvantable. Alors, ces deux hommes, qui avaient des femmes et des enfants, qu'est-ce qui les a soutenus? Parce que s'ils disaient non, je ne veux pas boire, c'était fini. Hein? Alors, ils ont remis leur âme au Seigneur. Ils se sont souvenus de cette parole. Et ils l'ont bu. Ils ne se sont jamais soutenus pour ça. De sorte que le roi, oui, il a vu cela. Ne dites pas que ça ne peut pas arriver, ces choses. Mais n'essayons pas. N'est-ce pas? Bien alors, je m'en vais dans un nid de serpents, et voilà, les serpents me mordent, et puis je reste là. C'est pas ça, nous ne sommes pas des singes. On n'est pas sur la planète des singes. Nous sommes des hommes qui avons les pieds sur la terre, le cœur dans le ciel, mais la tête sur les épaules aussi. Alors, nous raisonnons. Et puis, l'autre qui s'est trouvé au milieu des lions. Il y avait des lions devant lui. Il y avait des lions qui venaient sur la droite et la gauche. Et puis, il y en avait derrière lui. Il ne pouvait pas sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un noir, un prédicateur noir. Il y a une dizaine d'années que ça s'est passé, ça. Puis, tout d'un coup, il a pris sa Bible. Puis, il leur a montré aux lions qui venaient. Je dis, écoutez-moi, je suis un serviteur de Dieu comme vous. Comme vous. Parce que les lions sont les serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Les lions sont les... Vous me direz que c'est enfantin. Mais pourquoi n'avons-nous pas un cœur d'enfant? Vous voyez que les lions sont au service du Seigneur. Quand un Daniel a besoin d'un bon oreiller, il dort sur un lion, n'est-ce pas, au fond d'une fosse. Et quand Dieu veut punir un prophète qui a désobéi, il envoie un lion qui le tue, mais qui laisse l'âne, n'est-ce pas. Il fait son travail comme il faut. Il tue l'homme, mais pas l'âne, n'est-ce pas. Et il ne mange pas. Voilà. Mais oui, il leur a prêché. Et on a vu les lions disparaître. Il est rentré. Pourquoi pas? Est-ce que Dieu peut vous étonner? Oh, je le voudrais. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant pour moi? Croyez-le. Alors, la maladie, eh bien, il faut savoir si nous devons passer par cette épreuve. Que de fois vous avez demandé au Seigneur, oh, donne-moi du temps pour toi, j'ai pas assez de temps, je suis pris dans une... Dans la routine, et puis je ne peux pas avoir le temps que je voudrais. Tout d'un coup, le Seigneur vous envoie une maladie. Un accident. Je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets ça pour moi? Il dit, mais je suis en train de t'exaucer. Tu ne te souviens pas ce que tu m'as demandé? Tu n'avais pas le temps de prendre. Tu n'avais pas le temps à prendre. Mais maintenant, je te le donne. Alors, au lieu de bénir le Seigneur pour ce temps unique, et de profiter de ce temps, on gémit. Comme nous sommes inconséquents. Rendez grâce au tout le monde. Jésus, vainqueur de la maladie. Jésus, vainqueur de la maladie. Il peut guérir, c'est vrai. Allons à lui, nous soumettons-nous à sa volonté et puis cherchons à vivre vraiment, authentiquement, les Écritures. Seigneur, nous te remercions pour tous les rafraîchissements que nous donne ta parole. Après la délivrance de la puissance du diable, tu nous montres aussi que nous pouvons être délivrés de la maladie, mais toujours en vue de te servir, en vue de te glorifier. Et peut-être aussi qu'à travers la maladie, ce sera une occasion de te rendre témoignage, de montrer que même sur un lit de souffrance, nous ne sommes pas des révoltés, nous ne sommes pas de ceux qui murmurent. Et nous savons que bien souvent, le lit de maladie a été plus puissant que la prédication en chair. Et nous voulons te demander que tu nous mettes d'accord avec toi et que nous puissions éprouver ce que nous dit ta parole. Je transformerai tout ton vie quand tu seras malade. Que la grâce et la paix nous soient données, que nous puissions nous en remettre à toi en toutes choses et te bénir de ce que nos temps sont dans ta main. Et que c'est un destin digne d'envie et sans souci du lendemain. Seigneur Jésus, donne-nous de pouvoir témoigner que notre paix et notre joie ne dépendent pas des circonstances, mais de ta présence en nous, qui fait toutes choses bien, et qui n'en verra pas au-delà de ce qu'on peut supporter, qui se souvient que notre force n'est pas la force des pierres, et que notre chair n'est pas les reins. Oh, merci Seigneur Jésus, de ce que tu te rappelles que nous sommes toutes poussières. Merci pour ta sympathie pour les malades, et donne-nous à nous aussi un ministère auprès des malades pour leur bénédiction. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et prépare-nous pour l'heure de ce soir afin que tu continues de parler à nos cœurs, à nos consciences, et que nous sachions que tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen.
Et qu'il nous aime de cet amour infini dont il a aimé son propre fils. Ça me dépasse toujours de penser à cela, que nous puissions nous-mêmes être aimés de ce Père de Jésus-Christ comme il aimait son fils unique. Et pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et nous le savons de la bouche de Jésus lui-même. Il disait à son Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que le Père ait aimé Jésus, c'est facile pour nous de comprendre. Mais que nous, aujourd'hui, nous soyons aimés de ce Père de Jésus-Christ, comme il aimait Jésus. Et voilà qui est tonique. Voilà qui vous arrache à vos misères, à toutes vos peines, ce savoir aimé dans un monde qui a tellement besoin d'amour. Et aimé d'un amour qui ne varie pas, qui ne change pas. Quelle que soit notre misère, Dieu nous aime parce que nous sommes devenus ses enfants si nous l'avons reçu. Et je veux croire que vous l'avez reçu ici. À tous ceux qui l'ont reçu, savoir à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté du sang et de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Voilà ce que déclare le prologue de saint Jean. Et dans son épître, l'apôtre Jean peut dire, voyez de quel amour le Père nous a fait don, de quel amour il nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Et nous le sommes. C'est vrai de vrai. Nous le sommes maintenant. Et nous sommes dans cette relation avec Dieu que rien ne peut rompre. Un enfant peut encore être désobéissant, un enfant peut encore avoir bien des attitudes désagréables, mais pourtant, il est l'enfant de ses parents. Et nous sommes enfants de Dieu. Oui, et parce que nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons la discipline de ce Père céleste. Et c'est une grâce encore d'être discipliné parce qu'il aime ses enfants. Et parce qu'il nous aime, il ne nous laisse rien passer et il sait nous reprendre dans sa grâce et dans son amour. Eh bien, nous nous réunissons dans cette salle pour la troisième fois et nous continuons de développer ce thème qui s'est imposé à notre esprit quand nous étions en prière, demandant au Seigneur que veux-tu pour les amis de Sherbrooke et qui m'ont demandé de venir passer ce temps auprès d'eux. Et cette parole qui m'a été donnée et dans la prière, elle se lit, et je le répète, au chapitre 28 de Matthieu, une parole du Christ ressuscité et qui a triomphé de toutes les puissances et qui peut dire à ses disciples auxquels il a donné rendez-vous, comme nous avons rendez-vous avec lui ce soir, parce que ce n'est pas avec moi que vous avez rendez-vous, c'est avec le Seigneur lui-même. Nous sommes ensemble. Je suis avec vous au pied du Seigneur pour savoir ce qu'il a à nous dire. Alors il disait au verset 18e, quand ses disciples l'ont approché, tout pouvoir ou toute autorité, ou comme nous l'avons dit aussi, toute puissance m'a été donnée.